Lorsqu'en 2015, les deux pays signent un accord de libre-échange, c'est le pic de leur relation qui s'était considérablement développée dans les années 2000. Pékin est alors le premier partenaire commercial de Canberra et la Chine est extrêmement populaire chez des Australiens qui vont vite changer d'avis. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Les relations ont commencé à se détériorer à partir de 2017 lorsque Canberra a interdit les dons étrangers à des partis politiques australiens, alors qu'à l'époque, 80% de ces dons venaient de Chine. En 2018, une législation a été adoptée pour limiter les interférences étrangères. Et puis la même année, surtout, l'Australie a été l'un des premiers pays à interdire à Huawei la construction de son réseau 5G. Et puis plus récemment, les tensions n'ont cessé de croître sur le plan politique.
Ces prises de position de l'Australie sur des sujets que la Chine estime être des affaires internes ont été pour Pékin la goutte d'eau qui, en avril dernier, a fait déborder le vase lorsque Canberra a demandé une enquête sur l'origine du Covid. Michael Shoebridge, spécialiste des questions de défense au sein de l'Australian Strategic Policy Institute.
Le président Xi Jinping veut que les autres pays acceptent les politiques et les actions chinoises, qu'il s'agisse de la militarisation de la mer de Chine orientale, des horribles violations des droits de l'homme au Xinjiang ou à Hong Kong, et qu'ils restent silencieux ou s'en réjouissent. L'Australie n'est restée silencieuse ou ne s'est réjouie de rien de tout cela, ni d'ailleurs des attaques informatiques de la Chine contre notre pays. Pékin a donc fait un calcul. Punir l'Australie pourrait aider à faire taire d'autres voix. Cela pourrait également stopper les gouvernements qui voudraient prendre les mêmes décisions que Canberra, la plus emblématique étant celle sur la 5G.
Faire pression sur l'Australie était facile. En juin dernier, près de la moitié de ses exportations partaient encore en Chine. Pékin met donc en place toute une série de taxes sur l'orge, le bœuf, le homard, le vin australien, plus 200% pour le vin. Michael Shoebridge.
Cela a eu un impact sur certains secteurs, mais globalement, notre économie a surtout démontré qu'il y avait des marchés alternatifs pour de nombreux produits de très haute qualité. Un exemple, une de nos grosses compagnies vinicoles estime qu'il lui faudra peut-être 3 ans pour s'en remettre, mais avec de nouveaux marchés comme la Corée du Sud et le Japon, et des marchés déjà existants comme l'Europe et l'Amérique du Nord, cela paraît garanti. Le minerai de fer, lui, représente une exception. La Chine en a besoin pour ses infrastructures et son secteur automobile. Et il lui est beaucoup plus difficile de trouver des substituts.
La Chine a donc peu taxé le fer, dont le prix a par ailleurs augmenté. Du coup, la balance commerciale est restée stable entre les deux pays, même si des pans entiers de l'économie australienne ont été durement touchés. Alors, quel résultat pour cette punition? L'Australie, si elle a peut-être adouci certains éléments de langage, n'a pas changé ses positions, estime Antoine Bondaz. Et les autres pays n'ont pas forcément reçu le message de la manière attendue. Exemple avec l'Europe.
Cela risque d'être contre-productif pour la Chine. Non pas tant que les pays européens ne vont plus critiquer la Chine, mais qu'ils vont essayer de mieux faire face aux pressions économiques chinoises, potentiellement en diversifiant davantage leurs partenaires et donc en étant plus résilients, potentiellement en partageant le coût de sanctions chinoises. Et tout cela, ce sont des discussions qui ont lieu désormais en Europe, qui n'avaient pas lieu il y a encore quelques années.
Et Michael Shoebridge de dresser le même constat, nous sommes tous aujourd'hui plus à l'aise pour évoquer les problèmes et parler des défis que la Chine nous pose.